Merci François et bonjour. Comment évaluer l'adoration dans une église? Il vous arrive tristement de quitter l'Ouest parisien et il vous faut chercher une nouvelle église. Alors comment évaluer l'adoration des églises que vous visitez? Comment évaluer la vie de culte dans ces églises? Est-ce que vous allez regarder les compétences de l'équipe musicale? Est-ce que vous allez plutôt regarder le volume de la musique, le côté technique? Est-ce que vous allez plutôt regarder l'ambiance? Est-ce que c'est une ambiance de révérence qui vous fait monter aux anges? Ce que nous allons voir ce matin, c'est que l'adoration véritable est beaucoup plus large, beaucoup plus coûteuse que ce qui se passe ici entre 9h45 et 13h le dimanche matin. Alors je vais prier et puis nous allons lire notre texte de ce matin. Prions ensemble. Nous te demandons, notre bon Père Céleste, de nous rappeler ce matin de ta bonté à notre égard et nous te demandons de renouveler notre intelligence afin de t'adorer. Vraiment, s'il te plaît. Amen. Amen. Donc, merci de chercher la page 740 dans les Bibles blanches. Il y a toujours des Bibles à gros caractères ici en bas, si ça vous aiderait. Et je vais lire à partir de Romains, le chapitre 12, au verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Que celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Et c'est ainsi que Paul commence une nouvelle section de son épître à l'église de Rome. C'est un verset charnière. Les 11 premiers chapitres ont été un discours argumenté, parfois assez dense. Mais à partir du chapitre 12, ça change. Nous lisons des centaines d'exhortations qui touchent à la vie quotidienne des chrétiens dans la grande métropole de Rome. Mais ces quelques mots du verset 1 nous donnent une mélodie qui doit résonner dans la suite. Ça vaut la peine de faire attention aux petits mots comme « donc ». Je vous encourage « donc ». Parce que ça montre que Paul fait une suite logique de tout ce qu'il vient de dire dans les chapitres 1 à 11. Et en fait, il résume les chapitres 1 à 11 avec une petite phrase, les compassions de Dieu. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas donné ce que nous méritons. Dieu nous a donné ce que nous ne méritons pas. Dieu a été très généreux Et c'est notre premier titre pour ce matin. Nous méritons la mort, nous méritons le salaire de notre péché, mais Dieu nous a donné le cadeau de la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu nous a libérés de la mort, du péché, de la loi. Il nous a aimés lorsque nous étions encore ses ennemis. Dieu nous a fait ses enfants adoptifs. Dieu nous a donné son esprit. Et cela indépendamment de notre origine, que nous soyons juifs ou non-juifs. Dieu nous a sauvés du début jusqu'à la fin. Dieu a été très généreux. Dieu a été très généreux. Et Paul nous exhorte à agir en conséquence. Parce que pour les chrétiens, ce n'est pas la culpabilité qui nous motive dans la vie chrétienne. Ce n'est pas le commandement du pasteur qui nous motive. Ce n'est pas non plus la crainte qui nous envoie en mission. Mais la motivation chrétienne, c'est la motivation de gratitude, de joie, d'amour, d'émerveillement devant la richesse, de la bonté, de la générosité, de la bienveillance, la gentillesse extrême de Dieu. Dieu a été très généreux. Donc, connaissez-vous l'histoire de Jean Valjean dans Les Misérables? Jean Valjean, criminel, sorti de la bagne, il vole les couverts en argent d'un curé qui l'accueille les bras ouverts. Et le lendemain, vous connaissez l'histoire, les gendarmes rattrapent Jean Valjean et ils le jettent aux pieds du curé. Et le curé pourrait envoyer Jean Valjean à la bagne de nouveau. Mais le curé dit à Jean Valjean, « Pourquoi n'avez-vous emporté les deux chandeliers que je vous ai donnés avec les couverts ?» Il procède de donner les chandeliers à Jean Valjean, qui est bouche bée devant ce qui se passe. Et puis le curé dit, « Souvenez-vous, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. » Et par cet acte immérité de grâce, la vie de Jean Valjean est transformée. Connaissez-vous aussi l'histoire du fils prodigue que Jésus a raconté? Un jeune homme, avant l'heure, demande l'héritage de son père. Il part, il fait la fête, il dépense, il perd tout son argent. Il décide de rentrer chez son père, de se proposer comme serviteur. Et son père est là, en train de l'attendre, et le père l'accueille, les bras ouverts. C'est un acte immérité de grâce. Connaissez-vous aussi l'histoire de John Newton, peu concerné par la religion, athée et libertin? La vie de John Newton bascule en 1748 lorsqu'il manque de périr dans une tempête. Il se tourne vers Dieu. 6 ans plus tard, il abandonne la mer et le trafic d'esclaves. Il rentre dans le clergé de l'église anglicane et c'est John Newton qui écrit le chant, la cantique Amazing Grace, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Newton, il est devenu un pasteur dans une église, il va devenir un partisan de l'abolition de l'esclavage. La vie John Newton est transformé par la grâce imméritée, la grâce infinie que Dieu lui donne. Et de la même façon, Amazing Grace, la grâce infinie, devrait être la bande originale pour la vie du chrétien. Nous devrions nous dire, Dieu a été très généreux. Et bien que nous puissions être soumis à toutes sortes de difficultés dans la vie, des souffrances, et des peines, et des pertes, et des tristesses. Paul le connaissait bien. Le chrétien peut dire, Dieu a été très généreux. Dieu ne me donne pas ce que je mérite, il me donne ce que je ne mérite pas. Et la suite de la lettre aux Romains explique comment les compassions de Dieu doivent transformer la vie. Mais avant d'aller plus loin, pouvez-vous dire avec moi, Dieu a été très généreux. Dieu a été très généreux. Sinon, Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas encore accepté le don de Jésus dans votre vie? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas encore saisi la gravité de votre situation sans Jésus-Christ? Si c'est le cas, la meilleure chose de faire serait de relire les chapitres 1 à 11, ou peut-être tout simplement, plus facilement, les chapitres 1 à 3, qui expliquent notre situation sans Christ et l'œuvre de Christ pour nous. Vous pouvez prier que Dieu vous dévoile plus de votre péché. Venez joindre à nous jeudi soir, 20h, pour Jésus l'enquête, pour revoir les bases de la foi chrétienne. Pourquoi nous croyons que Dieu a été tellement généreux? Les compassions de Dieu doivent être la mélodie qui résonne dans la vie du chrétien. Mais souvent, malheureusement, tristement, cette mélodie diminue, son volume n'est pas aussi audible. On commence à penser que la grâce de Dieu est chose due. Personnellement, j'ai trouvé que remercier Dieu plus souvent pour Jésus-Christ m'aide beaucoup. Quand je rends grâce avant de manger, je rends grâce aussi pour Jésus. Ou y a-t-il un verset de Romains que vous pouvez mémoriser pour vous rappeler des compassions de Dieu? Personnellement, je suis fan de Romains 5, verset 8. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ou peut-être la cantique Amazing Grace, grâce infinie, peut rester dans votre esprit cette semaine. Les compassions de Dieu doivent être la mélodie qui résonne dans notre vie. Mais alors, que faire précisément à la suite des compassions de Dieu? Dieu a été très généreux, donc offrons notre corps à Dieu. Voici la première et peut-être la plus grande exhortation de Paul. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Dans l'Ancien Testament, les Juifs offraient des sacrifices d'animaux, n'est-ce pas, pour obtenir le pardon. Dans le Nouveau Testament, Jésus s'est offert comme un sacrifice parfait pour le péché. Désormais, les chrétiens n'ont plus à offrir des sacrifices pour obtenir le pardon de Dieu. Le sacrifice de Dieu est suffisant pour les péchés passés, présents et futurs. Merci Seigneur pour cela. Mais par reconnaissance, par joie devant la bonté de Dieu, les chrétiens s'offrent eux-mêmes. C'est un sacrifice vivant. Il y a une histoire. Il y a une histoire d'un garçon qui était touché par la bonté de Dieu pendant un message dans une église. Et à la fin du culte, les paniers, les bourses circulaient dans l'église. Alors les garçons cherchaient ses poches, mouchoirs, bonbons. Ce n'est pas tout à fait digne comme offrande pour Dieu. Alors, quand il a reçu la bourse, le panier, il l'a mis par terre et il s'est mis dedans. C'était un sacrifice vivant. C'était un sacrifice vivant. Il s'est donné lui-même. Notez bien que c'est un sacrifice, c'est coûteux. Notez bien aussi que c'est le corps qu'on offre. Il ne s'agit pas simplement de donner son cœur à Jésus, mais tout ce que nous sommes. Et voici notre culte raisonnable. C'est un mot lié à notre mot logique. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant, c'est logique, c'est normal. C'est normal étant donné la générosité de Dieu à notre égard. Et donc, comment évaluer l'adoration d'une église? En fait, c'est très difficile, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit de tout ce que ses membres font pendant toute la semaine. Ce n'est pas ce bâtiment qui est un lieu de culte. Et puis vous pouvez offrir un culte là où vous êtes pendant toute la semaine, en chair et en os. Ça ne revient pas à quelques personnes spéciales de rendre un culte à Dieu. Mais tous ceux qui ont reçu les compassions de Dieu sont exhortés à rendre un culte à Dieu. Ce n'est pas seulement ce qui se passe ici, où on rend un culte à Dieu, mais nous pouvons offrir un culte à Dieu avec tout ce que nous sommes, avec nos mains, avec nos pieds, avec nos langues, avec nos yeux, avec nos têtes, dans la vie quotidienne. C'est un rappel des versets que nous avons lus dans le chapitre 6. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments à l'injustice, mais au contraire, livrez-vous à vous-même, à Dieu, comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de l'injustice. On dit que Sally Martin Jones, la femme du grand prédicateur britannique, dans la cuisine, là où elle faisait la vaisselle, on dit qu'elle avait mis une affiche. Culte rendu ici 3 fois par jour. Elle avait compris que même quand elle faisait la vaisselle à la maison, elle pouvait rendre un culte à Dieu. Dieu a été très généreux, offrant notre corps à Dieu, mais aussi soyons transformés pour Dieu. Le verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ensuite, Paul nous exhorte à ne pas être conformés au monde actuel. Et pas monde actuel, il veut dire non simplement notre société et ses valeurs, mais aussi ce monde qui est en rébellion contre Dieu, contre son Créateur. Le chrétien ne fait plus partie du monde en rébellion contre Dieu. Et au lieu d'être conformé à ce monde, nous devons être transformés. Et avec quel but? Discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, attention, nous entendons volonté de Dieu et nous pensons souvent aux grandes questions comme est-ce que je devrais être infirmier ou ingénieur? Est-ce que je devrais habiter à Agnières ou Amiens? Ici, il s'agit bien de la volonté morale de Dieu. Parce que Dieu connaît toutes choses, bien sûr, Dieu sait si je vais choisir d'être infirmier ou ingénieur, si je vais décider d'habiter à Agnières ou à Amiens. Mais Dieu ne promet pas de me révéler ce que je dois choisir avant l'heure. C'est à moi de prendre une décision sage. Et puis, en tant qu'ingénieur, infirmier, si j'habite à Agnières ou Amiens, c'est à moi de faire ce qui est bon, agréable et parfait. Et comment savoir ce qui est bon, agréable et parfait? Dieu renouvelle notre intelligence. Alors, le premier chapitre de Romains a parlé de notre intelligence déréglée, obscurcie, à cause de notre refus de donner la première place à Dieu. Mais à la conversion, Dieu renouvelle notre intelligence et il continue à renouveler notre intelligence toute notre vie par le Saint-Esprit au travers de la Bible, qui est la révélation écrite de la volonté de Dieu. Et petit à petit, on comprend les différences entre une vie sans Dieu et une vie vécue pour lui. Petit à petit, on comprend ce que Dieu pense concernant l'argent, concernant les loisirs, concernant la famille et ainsi de suite. Et bien que ce soit Dieu qui renouvelle notre intelligence, Paul nous exhorte à être transformés pour Dieu. Parce que nous pouvons poursuivre une intelligence transformée ou nous pouvons lui résister. Et donc, est-ce que vous êtes plus comme un soldat ou plus comme un cheminot? Est-ce que vous êtes plus comme un soldat ou plus comme un cheminot? Le soldat, il fait tout ce qu'il peut pour se camoufler, n'est-ce pas? Tout pour se conformer à son environnement. Par contre, le cheminot, il fait tout ce qu'il peut pour être vu, pour être distinct de son environnement. Le cheminot est en grand danger si on ne peut pas le repérer facilement. Un soldat camouflé, ou plutôt un cheminot distinct, repérable. Un chrétien conforme ou un chrétien transformé. Nous allons discuter plus au groupe de maison ce jeudi soir. Mais on peut réfléchir vite fait maintenant. Quelles sont les valeurs, les comportements vers lesquels notre société veut nous conformer? Trois idées rapides. Augmenter son niveau de vie avec son salaire ou maintenir le même niveau de vie afin de pouvoir donner plus à l'œuvre de l'Église. Penser qu'être vierge à l'âge de 30 ans serait la pire des situations ou plutôt poursuivre le plan de Dieu pour le mariage, pour la sexualité, y compris le célibat en dehors du mariage. Avorter un bébé qui risque d'être en situation de handicap ou protéger la vie de celui-ci, précieux aux yeux de Dieu, bien que son accueil aille tout chamboulé dans la vie. Dieu a été très généreux, donc soyons transformés pour Dieu. Et ces versets sont la base pour la suite de la lettre. Paul va décliner plus la manière dont nous devons offrir notre corps et comment être transformés pour Dieu dans des domaines spécifiques. Mais il commence et nous allons conclure avec notre dernier titre, « Servons l'Église de Dieu ». Dieu a été très généreux, donc « Servons l'Église de Dieu ». Parce qu'à partir du verset 3, Paul nous exhorte, au lieu d'avoir des sentiments, avoir une haute opinion de nous-mêmes, Paul nous exhorte à garder des sentiments modestes et à nous mettre au service des autres. Et déjà, on voit là une vie transformée et non pas conformée, et une vie de sacrifice. Parce que dans notre société moderne, tout tourne autour de l'estime de soi, n'est-ce pas? Notre orgueil blessé veut que les autres nous valorisent davantage. Mais ici, nous sommes exhortés, au lieu d'avoir une haute opinion de soi et d'attendre à ce que les autres nous servent, Paul nous exhorte à avoir les sentiments modestes et à servir les autres. Et pourquoi? Pourquoi? Grâce aux compassions de Dieu. Dieu ne m'a pas sauvé parce que je suis mieux que les autres, mais il m'a sauvé par sa grâce. Alors, je n'ai aucune raison d'avoir une haute opinion de moi-même. Jésus m'a aimé lorsque j'étais encore son ennemi. Alors, comment pourrais-je décider de ne pas servir les autres? Mais de plus, les chrétiens font partie d'un même corps. Paul le dit à partir du verset 4, et comme le corps humain est composé de plusieurs membres avec plusieurs fonctions, de même l'Église qui est unie en Christ est composée de plusieurs membres avec plusieurs fonctions différentes. Ça ne sert, dans le corps humain, ça ne sert à rien pour l'œil de se comparer avec les pieds. De la même façon, ça ne sert à rien pour celle qui chante de se comparer avec celui qui fait le ménage. Tous les deux peuvent continuer à faire leur travail qui serait raté sans le travail de l'autre. Et Paul nous exhorte à servir l'Église selon nos dons. Je vais lire à partir du verset 6. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement et que celui qui a le don d'encourager à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, que celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Alors nous n'avons pas le temps pour tout discuter, mais deux commentaires. D'abord, nous voyons que ce n'est pas le don qui compte, mais c'est le service qui s'ensuit qui compte. Peu importe si vous avez le don d'enseignement ou le don d'exercer la bienveillance. Ce qui compte, c'est le fait d'enseigner, d'exercer la bienveillance. Deuxièmement, voyons que ce n'est pas une liste complète des dons. Chaque liste des dons dans le Nouveau Testament est différent, et de plus, parfois, il est difficile de savoir de quoi il s'agit précisément, ces dons. Et donc, il me semble qu'une réponse sage à ce texte, ce n'est pas de rester assis dans sa place, agonisant. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est mon don? Quel est mon don? Quel est mon don? Quel est mon don? Mais plutôt de saisir les occasions pour servir. Saisir les occasions que vous voyez pour servir. De saisir les occasions qu'on vous donne pour servir. Et de servir avec enthousiasme et humilité. Et ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le don pour une telle chose, on va vous dire, on va vous demander de faire autre chose. Mais aussi, parfois les autres sont plus forts pour reconnaître nos dons. Et comment découvrir nos dons si ce n'est pas en servant les autres? Et c'est ainsi qu'on revient au début. Parce qu'il se peut que servir, même selon ses dons, soit coûteux. Mais Dieu nous appelle à offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Il se peut que servir même selon ses dons soit difficile, mais Dieu nous appelle à être transformés, non pas conformés à notre monde qui préfère la vie confortable et facile. Ce n'est pas facile de vous lever tôt pour préparer le café et accueillir les gens, mais accueillons avec zèle. Ce n'est pas facile de faire la sono, la vidéo, quand personne ne vous voit, sauf quand ça plante. Mais faisons-le avec joie. Pourquoi? Parce que Dieu a été très généreux à notre égard. Il nous a aimés. Il a donné son Fils pour que Jésus soit condamné à notre place. En Jésus, Dieu ne nous condamne plus. Dieu a fait de nous son enfant. Nous sommes à lui pour toujours. Dieu nous a montré sa compassion et que cette compassion imméritée, abondante, saisisse notre cœur afin de nous apprendre à, jour après jour, lui offrir notre corps, nos mains, notre bouche, nos pensées, nos yeux, notre service, nos biens, avec reconnaissance et joie. Je vais prier. Mais je vous donne aussi quelques instants pour réfléchir à votre pour prier vous-même en silence. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta générosité à notre égard en Jésus-Christ. Et que faire en retour si ce n'est pas t'offrir notre corps en tant que sacrifice vivant? Et nous te demandons de renouveler notre intelligence pour que nous puissions discerner ta volonté à la maison, au travail, en famille, quand nous faisons nos loisirs pour vivre des vies transformées pour toi, non pas conformées. Et s'il te plaît, fortifie-nous aussi pour servir ton Église avec joie, avec zèle, avec enthousiasme, s'il te plaît, pour que la gloire revienne à toi. Amen. Amen. Bonsoir.